La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'a pas fini de débattre sur Sade, même si en général on débat moins de son œuvre que de ce que l'on croit être son œuvre, moins de sa vie que des principes moraux à l'aune desquels on la juge. Et il est vrai que la question morale se pose immédiatement à qui découvre les 120 journées de Sodome, texte dont la violence, il faut bien le dire, est insoutenable et paraît gratuite. Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder Sade dans toutes ses nuances, qui sont plus franches et plus épicées que de simples nuances de gris. S'informer sur Sade afin de mieux le lire, c'est ce que nous allons tenter de faire ici cette semaine. Jeudi, Éric Marty viendra nous parler des diverses interprétations de Sade qui ont jalonné le XXe siècle. Mercredi, grâce à Florence Lottery et Cécile Gilbert, nous parlerons de Sade et les femmes, ainsi que de la femme de Sade, André Pélagy. Enfin demain, c'est notamment de l'amour selon Sade dont il sera question, ce sera avec le professeur Michel Delon. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie du Marquis de Sade, nous sommes avec Stéphanie Genant, maîtresse de conférence à l'Université de Rouen, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle et bien connue des auditeurs de la compagnie où elle intervient régulièrement le jeudi. Après un essai sur le libertinage à la fin de l'Ancien Régime, publié en 2005, puis un autre sur Germaine de Staël en 2016, elle publie aujourd'hui une biographie inédite de Sade dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée, et que m'importe? Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde. Et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
L'extrait d'une lettre du marquis de Sade à sa femme alors qu'il est en prison en 1783. Bonjour Stéphanie Genant.
Bonjour Mathieu.
C'est à cette façon de penser, entre guillemets, qu'on songe immédiatement à l'évocation du nom de Sade, cette manière d'immoraliste d'envisager le rapport au plaisir et à la douleur. Mais la lecture de votre biographie nous donne à voir un autre Sade, un Sade qui n'est ni plus ni moins qu'un homme comme les autres.
C'est ce que j'ai essayé de raconter, c'est ce qui est frappant, je ne suis pas la première, loin de là, à faire une biographie de Sade, il y a toute une tradition derrière.
Une biographie immense en général.
Biographie immense et qui font partie de l'histoire critique de Sade, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, bien sûr de les supplanter, elles font partie de la tradition, elles ont beaucoup apporté chacune, elles sont indispensables. Par contre, elles vont toutes dans le sens, quand même, même si elles prétendent parfois le contraire, d'une singularité exacerbée de Sade, une espèce d'exception. Même si toutes disent « il faut normaliser Sade », il m'a semblé que peut-être ce travail de neutralisation restait à faire, et peut-être qu'il était temps aujourd'hui aussi, hein, parce que la première biographie, elle date de 1957, celle de Gilbert Lely. Là, on est presque 70 ans plus tard, donc peut-être que les plaies sont un peu apaisées dans la mémoire sadienne pour qu'on puisse rouvrir le dossier de manière un peu plus serein.
C'est donc un homme comme les autres, comme d'ailleurs le docteur Ramon en avait fait l'expérience en 1818, quand il avait eu l'occasion de déchiffrer l'énigme du crâne du marquis, en observant ce crâne en phrénologue, un crâne en tout point semblable à celui d'un père de l'Église.
Alors quand j'ai lu, c'est vrai, hein, c'est une véritable anecdote, Sade avait précisé dans son testament qu'il souhaitait absolument ne pas être autopsié, et le fils aîné qui est l'exécuteur testamentaire respecte ce vœu, donc Sade n'est pas autopsié dans un premier temps, et puis c'est suite à un hasard de travaux dans le cimetière de Charenton où il est enterré, que le médecin a l'occasion, 4 ans après sa mort, de faire cette autopsie. En découvrant cette histoire, pour moi c'était révélateur de tout ce qu'on a pu projeté sur Sade. C'est-à-dire que le médecin lui-même qui a assisté le docteur Ramon, c'est celui qui constate la mort de Sade, donc il l'a connu en 1814, c'est lui qui vient constater le décès officiellement, et lui-même était persuadé que le corps, le squelette, le crâne, en plein essor de la phrénologie, serait en quelque sorte à part, anormaux, on dirait aujourd'hui. Et en fait, non. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça l'anecdote qui va nous aider à projeter la même chose sur toute la vie de Sade, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'il n'y a rien de si extraordinaire que ça.
Parce qu'aujourd'hui encore, même si on sait bien que le crâne de Sade ressemble à tous les autres crânes, on a le sentiment que c'est un être à part.
Oui, mais tout dépend de ce qu'on appelle un être à part. Si un être à part dans la société qui est la sienne, c'est un être qui a des frasques sexuelles marquées, ça n'a rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. En fait, l'anormalité, en un seul mot, de Sade, son exception, si vous voulez, elle dépend de la conception de l'humain qu'on se fait au départ. Si on est naïf, ou si on est même, on dirait, dans le déni de ce que c'est qu'un homme, c'est-à-dire que si on est un enfant encore, vous voyez, si on n'a pas une idée de la violence dont les hommes sont capables, aussi bien sur le champ de la sexualité que sur le champ de la vie en général, parce que c'est ce dont nous parle Sade, pas seulement de la sexualité, si on n'a pas une idée claire des pulsions violentes dont les hommes sont capables, forcément on a tendance à faire de Sade un monstre, une espèce de forcené. En réalité, si on change d'échelle et qu'on part de l'idée que tous les hommes sont capables du pire, à partir de ce moment-là, la vie de Sade devient finalement relativement banale. Mm-hmm. En tout cas, c'était l'angle que moi j'ai choisi.
Peut-être un peu moins prudente que la vie d'autres personnes. C'est peut-être là que se fait la différence. Alors, on a son crâne, ou plutôt on a un moulage de son crâne. Vous le reproduisez d'ailleurs dans votre biographie, mais on n'a pas tellement d'images de qui était Sade. On ne sait pas très bien à quoi il ressemblait. Il y a juste un portrait que d'ailleurs vous reproduisez sur la couverture. Ce portrait est-il fidèle? On a l'impression d'un jeune homme très beau.
Alors ça, c'était une grande surprise pour moi d'ailleurs en travaillant à cette biographie, en lisant les correspondances. Je n'avais pas idée que Sade était si joli, comme on le dit. C'est l'adjectif que tous ses proches utilisent. Apparemment, il était
joli
très
garçon.
Beau. Joli garçon, mignon, blond aux yeux bleus. C'est pas du tout, là encore, le fantasme qu'on peut avoir. Si vous faites un sondage sur 100 personnes, ils vous diront qu'ils imaginent que Sade est brun, quoi. Là encore, comme toutes ces héroïnes, sont brunes. Enfin, tout ça, c'est des stéréotypes. Le brun étant quand même plus poivré, le blond plus angélique, etc. Ça, des blonds aux yeux bleus, mignons, etc. À la fin de sa vie, même au milieu de sa vie, prend beaucoup de poids, son corps change, etc. Mais il reste assez mignon. En revanche, on n'a pas d'image de lui. Et cette image-là, personne n'est sûr que ce soit de lui. Donc moi, je ne voulais pas qu'il y ait d'image en couverture. C'est pas mon choix. Ah. C'est le choix de l'éditeur. Moi, dans mon choix, mais bon, je peux comprendre, ce n'était pas très commercial. Ça aurait été de mettre le crâne en couverture. Parce que ça, c'est la vraie image. Et en plus, elle dit quelque chose, c'est-à-dire ce crâne normal, en quelque sorte. Sade, il est comme nous. Il a un crâne, voyez.
Alors, il lui manque quand même la petite vérole sur la couverture du livre, parce qu'il était atteint de cette maladie-là. Et puis, évidemment, au fur et à mesure de sa vie, il va se transformer, devenir beaucoup plus adipeux, beaucoup plus gros. Et il a été représenté, alors, sous cette forme-là, mais bien plus tard, après ces années de détention qui l'ont détruit physiquement.
Oui, et au cinéma, il a aussi été beaucoup incarné, pardon, Sade, je me souviens, enfin, on a tous en mémoire, par exemple, Daniel Auteuil dans le film de Benoît Jacquot, je me souviens, dans les années 90. En fait, c'est un contresens physique total, hein. Le Daniel Auteuil des années 90, qui est un homme de 50 ans plutôt beau, et pas du tout le Sade de Charenton qu'il incarne. Il y a eu un projet qui n'a jamais abouti, qui aurait fait jouer le dernier Sade, enfin celui entre les 20 dernières années, par le Marlon Brando tardif, celui qu'on voit déjà un peu dans Apocalypse Now, qui est déjà un peu parti dans sa tête et dans son corps. Ça, je crois que ça aurait été un excellent casting. C'est comme ça, si on pense à Sade, il faut penser au dernier Brando. Je pense que là, on a une image qui s'approche assez de la réalité.
Thank you. La compagnie des auteurs sur France Culture et nous faisons la biographie du Marquis de Sade avec Stéphanie Genan. Marquis de Sade né en 1740 à Paris, à l'hôtel de Condé qui se trouvait à l'époque à l'emplacement de ce qui est devenu aujourd'hui à peu près le carrefour de l'Odéon. Né donc le 2 juin 1740. Il s'appelle Donatien Alphonse François, mais il est aussi connu sous les prénoms de Louis Aldonze Donatien. Ça c'est important, le prénom d'Aldonze, parce que ça dit beaucoup sur les origines méridionales de la famille de Sade, puisque Aldonze est un vieux prénom méridional.
Oui, et c'est un prénom féminin en plus. C'est ça qui est assez intéressant, chose que j'ai découverte dans les recherches pour la biographie. Sade est effectivement originaire du sud, de la Provence, du village de Lacoste, aujourd'hui à côté des Baux de Provence, et c'est pour lui quelque chose de très important, cette mémoire, ses paysages, ses saveurs aussi. Donc humaniser Sade, c'était aussi le ramener dans un territoire, des racines qui sont les siennes, même si finalement il passe quand même 30 ans de sa vie hors de cette Provence-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le jour du baptême à Paris, de l'enfant, le curé se trompe de prénom. Pour moi, c'était déjà une espèce de malentendu, de cristallisation du fait qu'on comprend. Évidemment, à Paris, Aldonze, personne ne comprend ce prénom. Et puis, lui-même est baptisé sous une fausse identité, ce qui va ensuite, dans sa vie, lui jouer des tours. Hein, parce que pendant la Révolution, on plaisante plus du tout avec les patronymes. Et du coup, Sade va se retrouver en danger, presque de mort, pendant la Terreur, parce que on va plus savoir qui il est, parce qu'on ne retrouve plus l'état civil. Donc ça, c'est aussi très... Il n'y a pas d'image chez Sade, et le nom lui-même pose problème. Ce qui montre, c'est vraiment très difficile de savoir qui est cet homme, et je ne prétends pas d'ailleurs l'avoir trouvé moi-même, mais...
En tout cas, la lignée, elle existe. Les deux Sade, c'est une famille noble. Son père, Jean-Baptiste, est un ami de Voltaire. Il y a d'ailleurs des ressemblances entre le père et le fils, qui d'ailleurs avaient une relation d'affection très forte.
Oui, la figure paternelle a beaucoup compté pour Sade, puisque dans sa cellule à Charenton, où il finit sa vie, il possède quelques tableaux, dont celui du père, qui nous est resté aujourd'hui. Le père, alors qu'il n'a pas toujours été très aimant pour son fils, ce qu'on voit, mais qui incarne une espèce de liberté qui a sans doute fasciné le fils, unique, donc, et puis une espèce aussi de philosophie. Le père écrit, le père est un sage, le père est un philosophe, au meilleur sens du terme. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans cette figure paternelle et dans ce qu'elle peut léguer à Sade, c'est une espèce d'aristocrate non attaché au patrimoine. Un aristocrate non pas, comme on l'a aussi beaucoup
d'ailleurs
dit...
D'ailleurs, dilapider son patrimoine.
Voilà. Un aristocrate, on a dit, Sade, c'est arc-bouté sur les privilèges. Pas du tout. Au contraire, c'est une famille dont le père déjà, alors que ça se fait pas du tout à l'époque, le père déjà était encombré par le patrimoine, par les châteaux, par le nom. Lui, se serait rêvé sans bagages, pouvant partir dans toute l'Europe. Alors que quand on est noble, à l'époque, c'est lourd, en fait.
Donc c'est un homme libre, c'est aussi un libertin, éclaboussé par des affaires douteuses, comme ce sera le cas aussi pour son fils.
Oui. Alors, affaire douteuse, affaire avec des amants, c'est la pauvre madame de Sade qui, elle, était plus à plaindre dans l'affaire, puisque son mari...
Comme souvent, les madames de Sade sont assez à plaindre.
Alors, la saison 2 est plus intéressante. La saison 1, sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations, elle nous montre quand même, effectivement, une femme qui, elle, est une vraie aristocrate, pour qui il faut respecter le nom, ne pas l'éclabousser. Elle va beaucoup souffrir avec son fils, mais elle souffre un peu avec son mari, qui, en fait, là encore, j'aurais tendance à dire, fait ce que beaucoup de gens de son milieu font, c'est-à-dire, goûte à tous les mets du buffet, on va dire ça comme ça.
Alors, la mère, justement, Marie-Éléonore, c'est un peu le contraire de son mari. Autant lui voyage, brille, écrit, et donc libertin, comme on l'a dit, autant elle est discrète, elle est même un peu taciturne.
Oui, alors, d'autant plus qu'on a très peu de témoignages, elle a très peu écrit, ou alors il nous reste très peu de lettres. Donc, c'est difficile de s'en faire une image très précise, et le peu de lettres qui restent d'elle donne effectivement l'image d'une femme très raide, qui d'ailleurs se retire de la vie sociale, entre dans une espèce de cellule religieuse assez tôt. Enfin, une femme vraiment un peu hors du temps.
qui terminera au Carmélite de Saint-Jacques, rue d'Enfer,
oui.
Ça ne s'invente pas.
Ça m'a fait rire un peu.
Alors donc ce petit Sade grandit donc en Provence, on l'a dit, d'abord chez sa grand-mère, ensuite chez son oncle. Ce sont des années qui se déroulent sous le signe du bonheur, de la légèreté. Et puis, le retour à Paris, à l'âge de 10 ans, c'est peut-être déjà un petit peu la perte de l'innocence au moment où il entre au collège Louis le Grand, Stéphanie Genon.
Oui, alors là encore, on n'a pas beaucoup d'éléments. J'ai cherché, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Mais le peu d'éléments qu'on a laisse effectivement craindre des années assez sombres. Je n'ose imaginer ce qui se passait au collège Louis le Grand en 1750. Je crois des choses assez peu orthodoxes et j'ai peur que ça défait toutes ces éducations là-bas, y compris celles qu'il aurait peut-être dû faire plus tard. J'en sais rien, mais tout laisse à croire qu'il a quand même vécu des expériences assez banal à l'époque, mais tristement banal, hein, de un peu je presse d'abus sexuels, enfin de choses comme ça.
Avec des instituteurs immoraux.
Immoraux, je pense, ouais.
Donc ça, c'est une intuition que vous avez, vous n'avez
c'est
pas
intuition.
Vraiment trouvé
non.
De documents.
Non. Mais quand on voit ensuite le sort réservé, alors évidemment, ça va faire bondir des gens qui vont dire que je suis dans la projection, mais objectivement, même dans les 120 journées, il est beaucoup question de des jeunes gens qui très tôt rencontrent des figures religieuses qui abusent d'elles. Enfin, ça m'a frappé en lisant récemment les 120 journées. Je pense que c'est ce que Sade a aussi tristement vécu. Il quitte la Provence, il quitte l'enfance. Il rentre dans la vie, dans tout ce qu'elle peut avoir de plus sombre en 1750.
Alors, ce qui peut le rattacher un peu à l'enfance, c'est qu'il est très entouré par beaucoup de femmes, notamment les conquêtes de son père, parce que son père était visiblement quelqu'un de très attachant, en tout cas pour ses maîtresses, et du coup, ces femmes reportent un petit peu de leur amour sur ce garçon. Vous dites qu'il grandit dans une sorte de maternité substitutive, et aussi dans l'amour. Il y a cet aspect-là aussi chez Sade, beaucoup d'amour.
Oui, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, ou lectrices aussi, en lisant mon texte, ce Sade a été aimé. Et oui, moi ça m'a
toute
frappé
sa vie, d'ailleurs.
Toute sa vie et par des femmes, il a été aimé. En plus là, en l'occurrence, à un âge où c'est très important de l'être, hein, cet adolescent mignon. Voilà, entouré de tendresse, qui n'est pas la tendresse de la mère, ça c'est sûr, mais il y a effectivement des femmes qui ont l'âge d'être sa mère, qui aiment le père, qui aiment donc celui qu'elles appellent notre petit. Donc il a plusieurs mères, en fait, hein, qui le bichonnent, on dirait couramment. Donc il reçoit beaucoup de tendresse.
Hein. Oui.
C'est pas du tout un... Ça peut être étonnant.
Et il en rend aussi, parce que c'est un grand romantique. Alors là encore, ce qu'on apprend un petit peu dans votre biographie, c'est le côté très sentimental du jeune Sade, et qui là encore, sans doute, va le rester.
Oui, c'est quelqu'un, là encore, moi, quelque chose que j'ai découvert. On dit, oui, mais Sade n'a jamais ni été aimé, ni aimé, mais pas du tout, c'est l'inverse. Effectivement, quelqu'un qui aime trop, qui ne dose pas du tout ses élans affectifs, alors qu'il est sans doute un tout petit peu dans l'excès, mais qui a besoin d'aimer et d'être aimé de manière extrême, en fait, très
c'est
tôt.
C'est peut-être même le projet de sa vie, parce que à 20 ans, vous dites qu'il rêve d'une existence neutre, pas tellement de célébrité. Il rêve de vivre bien, de s'amuser sans se ruiner, ni se déranger. Peu d'amis, peut-être point même peut-être, car il n'en existe pas un de véritablement sincère, écrit-il à l'époque dans sa correspondance.
Alors ça, c'est le Sade à 20 ans qui est déjà très mélancolique. On ne sait pas pourquoi. Pour lui, la vie s'apparente déjà, il ne sait pas à quel point ça va être vrai, à une espèce de retraite, idéalement. Alors qu'ensuite, dans sa vie, il aura envie d'être connu, mais pour de bonnes raisons. Mais pour lui, c'est vrai que la vie idéale, c'est une vie un tout petit peu en clair-obscur.
Alors,
une vie un peu tranquille, quoi, si vous voulez.
Ce qu'il aura pendant peu d'années. Il fréquente beaucoup le théâtre, il fréquente aussi beaucoup les proxénètes. C'est déjà quelqu'un qui n'a pas une très bonne réputation, joueur, prodigue, débauché même. Ça commence à cet âge-là.
Oui, c'est tout... Ça appartient, si vous voulez, à un milieu social qui effectivement pratiquait régulièrement les soirées un peu poivrées, les petites maisons comme on les appelait, hein, dans les faubourgs, les lieux, les prostituées. Sade l'a dit lui-même plusieurs fois, il a de forts besoins sexuels, donc il y a un désir chez lui ardent qu'il trouve à se satisfaire assez naturellement à l'époque auprès de courtisanes. En même temps, là encore, rien que de très banal à l'époque. Il y a aujourd'hui toute une littérature de rapports de police qui montrent en fait la relative banalité de ces pratiques-là. Donc il n'y a rien. Alors lui, il fait partie de ceux qui sont peut-être les plus ardents de ce groupe de gens, mais
Ouais. Voilà. Alors d'ailleurs, il cherche à se marier. Il faut dire qu'il est un petit peu obligé parce que il y a plus beaucoup d'argent chez les Sade et ce serait bien de faire un beau mariage. En tout cas, c'est ce que le père entend faire et proposer à son fils.
Alors c'est vrai que c'est là que l'histoire commence à se corser entre le père et le fils. Le père est obsédé par la banqueroute et donc il faut que le fils se marie pour combler les dettes aussi du père. Alors que le fils est assez peu soucieux de sa propre carrière, comme on disait, qui devait être logiquement une carrière militaire. Et le père force le mariage du fils, comme là encore ça se fait couramment, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, plus couramment encore pour les femmes, mais Sade se marie du coup contre son gré.
Et voilà ce qu'il dit de sa femme dans une lettre à son oncle, l'abbé de Sade, en 1765.
Je serais sans doute beaucoup plus heureux si j'aimais ma femme. Mais suis-je le maître de ce sentiment-là? J'ai fait l'impossible, mon cher oncle, pour me vaincre sur la répugnance qu'elle m'a inspirée dès le premier moment. Je n'en ai jamais été le maître. Qui sut mieux que vous comment j'ai été marié, dans quelles circonstances? Était-il temps de me dédire quand je suis arrivé à Paris? Tous les préparatifs étaient faits. Le roi avait signé chose qui n'a jamais été sans la présence du prétendu. Remarque faite par tout Paris. Eh bien, j'ai fait ce qu'à la vérité un honnête homme ne devrait jamais faire. Ma bouche a promis ce que mon cœur ne pouvait tenir. Et cessant de me croire engagé parce que je ne l'étais que par la forme, j'ai cru que tout mon devoir consistait à cacher mes vrais sentiments.
Par Daniel Mesguiche dans la compagnie des auteurs. Alors cette idée, Stéphanie Genant, qu'on n'est pas le maître de ses émotions et donc pas totalement responsable aussi de ce qu'on ressent, de ses sentiments, c'est quelque chose qui revient très souvent chez Sade.
Oui, ça tient à une conception, on va dire, un peu naturaliste de la morale. Sade pense que c'est la nature, comme il le dit lui-même, qui agit en nous, et que nous ne faisons que nous plier à ce que la nature nous a donné. Elle peut nous avoir donné un tempérament, elle nous a donné des passions, et cette énergie qu'elle nous a léguée, qui prend des degrés différents selon les individus, nous n'avons pas le choix que de nous y plier. Mmh. Nous ne sommes donc pas totalement libres, si vous voulez y aller par là.
Mais alors la relation avec sa femme dont on a entendu un petit peu la couleur dans cette lettre, elle va évoluer. Là, on est au début de la relation. Et ensuite, cette femme, eh bien, finalement, elle va devenir très importante pour lui. Elle va toujours le soutenir.
Oui, alors c'est encore... ça contrevient au cliché du Sade misogyne et qui aurait été détesté par les femmes. Je veux bien qu'il y en ait une qui se soit aveuglée, mais il se trouve qu'il y en a quand même beaucoup trop qui l'ont aimé. Et Renée, Pélagie, donc son épouse, au début, est son épouse contre leur gré à tous les deux. Donc forcément, l'amour ne peut pas naître d'une union mal assortie, comme on dit à l'époque, d'une union arrangée. Mais le couple Sade va trouver un équilibre affectif et dans lequel René va, c'est vrai, s'investir jusqu'à devenir une figure essentielle. Et on voit Sade l'aimer fortement, et René aussi. Pour René, il y a une espèce d'engagement sacrificiel, un peu christique, hein, quelque chose de très chrétien en tout cas, dans tout ce qu'elle va donner à Sade de tout le temps, enfin les 20 premières années de leur mariage. Ensuite, ils vont divorcer.
Hein, mais après sa sortie de prison.
Après sa sortie de prison. Mais justement, on se dit pourquoi a-t-elle autant fait pendant toutes ces années où elle lui apporte tout, elle dans une abnégation.
Où elle accepte aussi qu'il soit amoureux de sa sœur à elle.
Oui,
ce qui n'est quand même pas rien. Et qu'ils partent ensemble, tous les deux, en Italie.
Mais c'est ça que je trouve génial dans cette Renée, qu'il a encore, elle a découvert de beaucoup de lecteurs qui me disent que c'est vraiment le personnage le plus surprenant. En fait, elle l'aime vraiment. Et quand on aime l'autre, on le prend comme il est, c'est-à-dire on le prend aussi avec ses frasques. Et si vous aimez quelqu'un qui aime votre belle-sœur, il faut être très chrétien pour ça, il faut avoir fait un gros travail sur soi.
Est-ce qu'il l'aime autant ?
Oui, Mais il est plus égoïste, c'est sûr, il est beaucoup plus égoïste. Elle fait tout pour lui, elle lit ses livres par exemple. En plus, c'est pas du tout une femme dans le cliché féminin de l'époque, etc. Elle a des idées sur la religion, sur la politique qui sont très, très modernes, René. Elle se travestit en homme pour le faire évader, enfin, vraiment quelque chose d'incroyable. Donc lui, il l'aime aussi, mais il a besoin d'elle, alors qu'elle, elle l'aime gratuitement. Elle l'aime par pure générosité. Elle l'aime de ce point de vue-là de manière plus chrétienne, si j'ose dire. Voyez, donc elle prend l'homme avec tout ce qu'il est.
Oui, alors il y a un autre personnage extraordinaire, c'est le personnage de la présidente, donc la mère de René Pélagie, la belle-mère du marquis de Sade. Il y a une relation extrêmement complexe, un petit peu triangulaire entre ces trois personnages.
Ah oui, oui, l'autre femme de sa vie, si j'ose dire, c'est sa belle-mère, donc la mère de René. Donc là encore, tout le monde le sait, hein, les Sadiens le savent, il y a une haine pour cette présidente de Montreuil, a priori, qui est un peu la vulgate biographique.
De Montreuil, c'est le nom de la famille.
Oui, pardon. Oui, c'est le nom de jeune fille de sa femme, donc la présidente. On dit il la déteste, ok, mais en fait c'est plus compliqué. Et une haine aussi spectaculaire ne pouvait que cacher, c'est vrai, une relation oedipienne assez marquée, alors là encore, qui n'est pas propre au Sade Montreuil, hein, mais il se trouve qu'entre la belle-mère et le gendre, il y a une fascination réciproque, et la belle-mère est vraiment à l'initiative de cette séduction. Elle tombe amoureuse de son gendre, et donc elle dit à son gendre « Je suis la femme qu'il te faut ». Elle le dit clairement dans certaines lettres, alors sans que ça aille jusqu'à des actes, hein, c'est une espèce de fantasme, on en reste là. Le gendre y trouve aussi son compte, mais la malheureuse Renée est au départ totalement occultée par ce couple fantasmatique créé par sa propre mère, hein, qui s'auto proclame l'épouse brillante et digne de son gendre.
Jusqu'à ce que arrivent les divers scandales de plus en plus forts qui vont faire que la belle-mère ne va plus soutenir son gendre. Il faut raconter le premier scandale, c'est celui de l'affaire d'Arcueil qui arrive le 3 avril 1768. De quoi s'agit-il, Stéphanie Genon?
Alors c'est l'affaire qui marque, je l'ai appelé le tournant d'Arcueil, qui marque effectivement une étape tragique dans la vie de Sade, parce que rien ne sera plus jamais comme avant, comme on dit couramment après cette affaire. Il s'agit en fait au départ d'une banale affaire de prostitution. Il paye une fille qu'il embarque avec lui. Vous savez, la prostitution avait une ampleur au XVIIIe qui est pas du tout la nôtre aujourd'hui, hein. Il y a toute une série de femmes misérables qui vendaient leur corps partout. Enfin, c'est quelque chose de très très important dans le paysage urbain des grandes villes, hein, je recontextualise un peu ça. Donc ça déplace des Victoires à Paris, il embarque avec lui une femme qu'il paye pour l'emmener dans sa petite maison à Arcueil, au sud de Paris.
C'est une garçonnière, il en a plusieurs.
Il en a plusieurs, voilà. Et où régulièrement il emmenait des filles, des hommes aussi, voilà. Et donc cette affaire est une affaire banale, sauf que c'est le jour de Pâques, enfin le vendredi saint plutôt exactement, et que ça demande à cette malheureuse qui s'appelle Rose Keller de jurer, de blasphémer, ce qui pour elle est impensable. Et puis il y a toute une série de pratiques, de fantasmes sexuels sadiens qu'il déploie ce soir-là, flagellation, sodomie, blasphème, on a en gros la trilogie sadienne, qui heurte Rose Keller, qui s'échappe par la fenêtre et qui ensuite porte plainte, mais porte plainte pour des sévices de cruauté, de prétextant que Sade l'aurait attaqué au couteau, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le fantasme sexuel de base et qui, surtout, relèvent désormais de la justice, alors que flageller une prostituée relevait d'une pratique sexuelle privée qui ne vous exposait à aucune peine. Mmh. Donc Sade se trouve à ce moment-là jugé, condamné, et aux yeux de sa belle-famille et de la présidente de Montreuil en particulier, il se trouve un personnage, à partir de là, scandaleux.
Même et si... dans le grand public aussi, parce que tout le monde connaît cette histoire.
Alors ça, mais Michel Delon l'a très bien dit dans son édition de La Pléiade. Cette affaire d'Arcueil, elle est le moment où Sade se voit de son vivant dépossédé de sa propre vie, parce que la rumeur va enfler, et Sade va devenir l'archétype du libertin monstrueux, de l'aristocrate qui abuse de ses droits. Il devient en fait, il prend pour les autres, il prend pour l'exaspération d'une classe sociale qui, il est vrai, avait tous les pouvoirs, mais il en faut un qui paye pour tout le monde. Politiquement, à l'époque aussi, on cherche à mater la noblesse. Donc Sade va devenir, il aura beau être innocenté, il va l'être. Hein. De toute façon, à partir de ce moment-là, il est coupable.
Mais peut-être parce que Sade déteste plus que d'autres l'hypocrisie, la dissimulation et les faux fuyants. Et donc, il estime que son mode de vie ne doit pas être caché. Même si c'est une personnalité, vous le dites dans votre biographie, très modérée, il n'entend pas dissimuler qui il est.
Non, c'est vrai. Mais pour lui, ce qu'il a fait à Arcueil relève de sa vie privée. Et en un sens, il a raison. On ne peut pas, à l'époque, on n'enferme pas un homme parce qu'il a flagellé une prostituée. En revanche, le blasphème est une faute beaucoup plus inquiétante. Et ce que lui reproche Rose Keller est faux. Donc, Sade, effectivement, ne se pliera jamais à l'ordre social parce qu'il le trouve corrompu. Mmh. Ça, c'est un fait. Mais de fait, il est coupable de rien à Arcueil.
Alors, il y a après toute une série d'autres affaires, et notamment l'affaire de Marseille. C'est un petit peu la même chose, mais cette fois, la présidente considère qu'il est allé trop loin et que donc il faut l'enfermer. Là encore, il va être jugé puis acquitté. Mais par une lettre de cachet, elle va faire enfermer pour quasiment 30 années, alors avec des interruptions, hein, on va le voir, son gendre.
Alors pourquoi le fait-elle enfermer? C'est la question qu'on peut se poser. C'est quand même un cas unique d'un auteur qui passe 27 ans de sa vie, enfin en tout cas les 17 ans, parce que les 10 dernières années, c'est plus la lettre de cachet, c'est Bonaparte, c'est autre chose. Mais jusqu'à la Révolution, c'est un auteur qui est enfermé par sa belle-mère. Alors pourquoi? Pas tant parce qu'il fait scandale et qu'il entache le nom de ses petits-enfants.
Peut-être un peu quand même.
Un petit peu. Mais c'est aussi parce qu'entre-temps, René a reconstitué le couple avec Donatien. Et donc pour la belle-mère, c'est aussi, en grande partie, une vengeance.
Donc jalousie par rapport à sa fille.
En partie. Mmh. C'est très mêlé les motifs. Mais c'est aussi une manière de briser le couple. Parce que de toute façon, le couple ne pourra plus exister.
Bon, on verra tout cela juste après la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Baptiste Liger.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Baptiste Liger du magazine Lire, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Dans le numéro de janvier, vous vous intéressez au lien entre actualité et sujet de roman de la rentrée justement.
En effet Mathieu, on a toujours tendance, en tout cas parfois dans les médias, à vouloir faire des ponts entre l'actualité générale et la production littéraire et éditoriale du moment. Alors ça tombe bien, en janvier, on a eu évidemment le nouveau livre de Michel Houellebecq, Sérotonine.
Comment ne pas penser à l'actualité?
Évidemment, pour différentes raisons, et donc on a pu lire ci et là des propos sur des rapprochements entre le mouvement des Gilets jaunes et le livre de Michel Houellebecq, où il est aussi question d'une révolte en particulier là, en l'espèce paysanne. Mais bon, est-ce que ce rapprochement est juste ou pas? Bon, à chacun de voir. Surtout, je pense que derrière ce livre, il faudrait pas oublier d'autres ouvrages avec lesquels on peut faire naturellement des ponts avec l'actualité.
Alors par exemple, on peut penser aux Gilets jaunes à la lecture d'État de nature de Jean-Baptiste de Froment aux éditions des Forges de Vulcain.
Absolument, oui. Le premier roman de ce quadragénaire au parcours alors sans faute, normalien, docteur en philo, conseiller de Nicolas Sarkozy, oui, et par ailleurs désormais au Conseil d'État. Eh ben voilà, nous propose une véritable vision de la France contemporaine à l'heure des Gilets jaunes, même si, disons-le tout net, il s'agit véritablement d'une uchronie avec, on va dire, deux trames principales. D'un côté, un clan qui est représenté par Claude, le numéro 2 de l'État, État qui est tenu par une présidente, bon, disons-le, très 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 fatiguée au sens politique comme au sens physique, et qui se rêve déjà en numéro 1, et lui représente vraiment l'État, j'allais dire, au sens le plus classique du terme, très centralisé tel qu'on l'entend, très légaliste. De l'autre côté, Jean-Baptiste de Froment s'attache à une jeune préfète dans la France très profonde, d'un petit coin de l'Hexagone qui s'appelle la Douvres, et qui voilà va devenir extrêmement médiatique et populaire au moment où il y a véritablement un soulèvement populaire de cette région qu'elle doit administrer. Et évidemment, on voit l'affrontement entre deux France, entre deux idées de l'État, deux idées du pouvoir, entre hommes et femmes aussi, et plein d'autres choses qui nous est proposé dans cet état de nature particulièrement malin. Mais la grande force de ce livre, c'est justement de ne pas tomber dans le schématisme, d'aller bien au-delà, de mettre d'autres intrigues, d'autres subtilités, et c'est ce qui fait d'état de nature de ce garçon vraiment à suivre une des belles réussites du moment.
Mais alors, revenir sur un pan d'histoire, ça aussi, ça peut éclairer d'une autre manière les événements actuels, c'est ce que montre Éric Vuillard avec la guerre des pauvres chez Actes Sud.
Ah bah déjà le titre, vous pouvez le noter. C'est vraiment aussi une belle surprise que ce très court texte, oui, une soixantaine de pages d'Éric Vuillard. Bon, rappelons-le, qui a eu le Goncourt maintenant il y a à peu près un an et demi avec l'ordre du jour et qui s'est fait spécialiste des très brefs récits sur des moments d'histoire très particuliers. Cette fois-ci, il s'attarde sur le cas de Thomas Münzer, qui, j'allais dire, dans l'Allemagne du XVIe siècle, allait être à la tête d'un soulèvement populaire particulièrement important. Lui-même, c'était un prêtre, théologien, d'inspiration luthérienne, même s'il s'en est un petit peu éloigné au fil du temps, qui ne supportait pas cette idée que l'Église, qui était censée représenter le Dieu des pauvres, et choisit grosso modo le clan des riches. Alors il y avait différentes méthodes pour lui, il a préféré l'allemand au latin notamment, mais ça n'était pas suffisant, et donc il a profité d'une révolte paysanne alors dans la Saxe pour lancer ce soulèvement. Mais évidemment, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Il va y avoir différents scandales, notamment en 1525 avec le soulèvement de l'homme ordinaire, avec sa violence, ses martyrs, ses ambiguïtés, et ce mouvement qui peut-être paradoxalement tourner à, je cite, la mesquine démocratie d'artisans. Et au-delà de tous les faits qui sont ici racontés, la grande force d'Éric Vuillard tient dans sa capacité à dire énormément de choses, très peu de mots, à ne jamais absolument souligner ou surligner les parallèles, et le tout dans une langue sèche, belle, c'est de la très belle littérature.
Oui. Alors pour terminer, on peut voir aussi une certaine France exclue dans Nino de la Nuit, c'est le dernier livre de Simon Johannin avec sa compagne Capucine, chez Alia.
C'est pas si fréquent quand même, un roman signé à quatre mains, notamment quand il s'agit d'un couple, et pour moi c'est véritablement la très belle surprise de ce mois de janvier. Simon Johannin, qu'on avait déjà pu remarquer il y a quelques temps avec un premier roman remarquable, L'été des charognes, qui lui avait valu le prix de la vocation. On est face ici à une chronique qui pourrait être très très simple, à travers le portrait d'un garçon tout juste sorti de l'adolescence qui rêve de devenir légionnaire. Bon, ça va être un petit peu raté pour lui dans ce domaine, et qui donc va errer dans aux abords de Paris entre des petits jobs plus ou moins licites et d'autres choses. Il y a l'amour, mais dans cette situation, c'est pas forcément facile de pouvoir l'entretenir, et donc il faut trouver des moyens de survivre et imaginer peut-être une ascension sociale qui prendra des traits inattendus. Bien sûr, la chronique sociale est très juste, les situations sont remarquablement retranscrites, on est face à du vrai. Et Capucine et Simon Johannin réussissent aussi ce tour de force d'être si juste par leur langue, car leur langue a su admirablement mêler une langue assez classique avec une oralité d'aujourd'hui, ce qui est parfois extrêmement artificiel et agaçant. Non, là l'équilibre est parfaitement trouvé, et voilà, vous n'oublierez certainement pas Nino dans la nuit, cet autre voyage au bout de la nuit.
Eh bien, merci beaucoup Baptiste Liger pour ces conseils, et puis on retrouve votre signature dans les colonnes du magazine Lire. Vous écoutez La Compagnie des Auteurs et vous êtes sur France Culture. Nous parlons du marquis de Sade, dont Stéphanie Genan nous raconte aujourd'hui la vie. Et on le retrouve en prison, où nous l'avons laissé avec cette lettre envoyée à sa femme en 1777.
Je vous répète pour la dernière fois que je deviens tout à fait fou, que la tête y pète tout à fait, et que si d'ici à très peu on ne me sort pas, ou que l'on ne me donne pas au moins la légère satisfaction de savoir mon terme, je suis décidé à tout casser, tout briser ici, sur l'homme qui me garde, essayer de me sauver, et me livrer en un mot à toutes les violences où on réduit ma tête. J'eus, avant-hier, une espèce de coup de sang, dont je n'ai rien voulu dire, dans la rage où je suis de ce que me dit le bourreau qui commande ici. Il me dit que je pourrais ou crever, ou me bien porter, qu'il n'en serait ni plus ni moins. Je mourrai à présent que je ne me plaindrai pas. Dites, si vous voulez tout cela, à votre indigne mère, qui, si elle-même, n'est sûrement pas payée de retour. Il n'y avait qu'à, du moins, me faire mettre dans une prison où l'on peut respirer l'air. Finissez tous les comptes avec votre mère, afin que je n'aie rien à faire avec elle quand je sortirai d'ici, ne voulant pas absolument la voir quand il s'agirait de l'Empire du Monde. Je vous prie de comprendre une bonne fois que je suis très mal et qu'entre cette prison-ci et celle que vous connaissez, il y a de la différence, comme de l'enfer au paradis, et que mon sort, enfin, est absolument pareil à celui de Caron.
Une lecture par Daniel Mesguich, Stéphanie Genant, pour ce jouisseur, cet aristocrate. La prison, c'est la pire des choses. Vous dites qu'il y est englouti tout vivant.
C'est une formule de sa correspondance. Et l'extrait que vous avez choisi dit bien l'enfer physique et psychologique qui a été la prison pour Sade. Hein. Il y reste 27 ans au total, sans raison. Je rappelle, la prison est insupportable quand on est coupable, mais quand on est innocent, elle rend fou, elle aliène le corps. Sade est détenu dans un cachot où l'air est irrespirable. Je l'ai visité cet été à Vincennes, hein, ça m'a fait un effet quand même. Il n'est pas dans un carré VIP, hein, il est vraiment dans un cachot, et en plus à la merci de surveillants généraux qui n'ont pas attendu notre époque pour être des vrais sadiques, eux. Et donc ils lui interdisent la promenade, etc. Bref, c'est l'enfer.
Ouais. Il est libéré 39 jours durant cette détention. C'est une espèce de parenthèse un petit peu enchantée au milieu d'une vie qui va être à partir de cette première incarcération, je crois qu'il a 38 ans, quelque chose comme ça, qui va être une vie de souffrance quand même.
Et justement, ils sont importants ces 39 jours, parce que Sade ressort presque un mois et demi.
Comment se fait-il qu'il ressorte ?
Il ressort parce qu'en fait, il a été arrêté suite à l'affaire de Marseille, où il fuit, il est condamné à ce moment-là à mort par contumace à Aix-en-Provence, et puis il s'enfuit en Italie, et puis il est arrêté. Bon, je vais passer les détails, c'est un tout petit peu complexe, mais donc il est arrêté pour des affaires qui sont au départ des affaires de mœurs, mais qui sont jugées comme affaires criminelles. Sade aurait été coupable d'empoisonnement à Marseille.
Alors que là encore, il aurait empoisonné et prostituées
en fait,
avec des petites pastilles.
Voilà, de pastilles aphrodisiaques qui, effectivement, si on en prend trop, ont des effets, des contre-indications, on dirait aujourd'hui. Et donc, l'affaire de Marseille, qui lui vaut son incarcération officielle, est jugée en cassation. Et donc, Sade obtient le droit de sa belle-mère, tyrannique, d'assister au procès qui a lieu en Provence. Et donc, on le libère 39 jours. C'est très important, parce que ce procès va l'innocenter. Donc il sort gracié, se disant « je suis libre », mais ce qu'il n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre plutôt, c'était que sa prison ne relevait pas de la justice, puisqu'elle est innocente, mais de la lettre de cachet, autrement dit, du bon vouloir de sa belle famille, qui finalement le ramène en prison. Alors c'est encore pire d'avoir non seulement retrouvé la liberté, mais de voir son sort, ses fautes, si vous voulez, effacées, et de retourner ensuite dans une arrestation qui va paraître d'autant plus arbitraire qu'elle ne repose plus du tout sur, vous voyez, une accusation.
Alors en prison, que fait-il ? Parce que c'est là qu'il devient aussi l'homme de lettres que l'on connaît. Il est probable que s'il n'avait pas été emprisonné comme ça et dans ces conditions-là, il aurait probablement été un homme de théâtre, il aurait probablement écrit des pièces, mais on ne se souviendrait sans doute pas du nom du marquis de Sade.
Je sais pas, ça on peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il lit et il écrit. Il mange, il lit.
Il mange beaucoup. Il demande à sa femme de lui envoyer beaucoup à manger.
Il dévore, et quand on dit dévorer en français, c'est aussi bien des livres que des sucreries, parce que Sade aime vraiment et très gourmand. Donc il bouffe. Il bouffe des livres, il bouffe tout ce que sa femme lui apporte, et il écrit énormément, de manière très méthodique, à la Sade. Hein. C'est vraiment quelqu'un de maniaque, qui du coup note tout sur des cahiers, etc. Tout est très consigné, il fait des projets, il écrit, et il projette son œuvre. Autrement dit, on a la totalité, ou presque, j'insiste, c'est très important, parce qu'il n'y a pas, à l'exception des 120 journées, un seul texte pornographique qu'il écrit en prison, ce qui contrevient là encore au cliché qu'on entend de Sade enfermé, qui du coup sublimerait la violence dans une espèce de tableau sexuel noir. Rien, à part les 120 journées, et c'est pas rien, hein, mais c'est un texte qu'il ne destine pas à la publication. Il écrit que du théâtre, que des romans, hein, il écrit les textes pornographiques quand il est en liberté. Ça, c'est très important, parce que là encore, ça casse les associations.
Et encore, il ne les signe pas de son nom.
Non. Mais il faut qu'il soit libre. Et On le voit quand on étudie sa correspondance, il faut qu'il soit aussi libre de la sexualité, ça c'est très troublant, pour écrire de la pornographie. Alors que moi, quand j'étais étudiante, je croyais naïvement que ça décrivait de la pornographie en prison pour conjurer le désir qui le consume, parce qu'il est au départ consumé par un désir qui ne trouve plus matière à se satisfaire, à part sur lui-même, évidemment. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et au moment où il sort de prison, il dit, alors ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué, parce que là encore, on dit ça d'obsédés sexuels très, très peu de temps dans sa vie, en fait. Alors, on ne sait pas pourquoi, peut-être la prison casse-t-elle le désir, peut-être le corps, avec toutes ses pathologies, elles sont nombreuses, éteint-il le désir. Je crois que c'est aussi, d'après ce qu'il dit dans ses lettres, j'en sais rien, une espèce de mélancolie, de dégoût d'ailleurs, dans tous les textes de Sade parle. Hein. Les 120 journées ne disent que ça, il n'y a rien de plus. On a envie de tuer son partenaire après l'orgasme, donc il vaut mieux pas en avoir d'orgasme. Du coup, il y a une espèce de congé donné à la sexualité dans la vie de Sade à 50 ans, qui libère étonnamment l'écriture pornographique.
Sade est dangereux, oui, mais comme lui-même dit que la liberté est une chose dangereuse et que les idées sont dangereuses. Parce que le grand apport aussi de Sade, c'est de montrer que les idées, qu'il n'y a pas d'idées sans corps et qu'il n'y a pas de corps sans idées. Ça veut dire que les idées ont aussi un répondant dans les corps. Donc c'est très concret. Et la question qu'il pose justement avec Français encore un effort aux abstractions très séduisantes que propose alors la Révolution française avec les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, ça demande qu'est-ce que ça veut dire concrètement. On s'aperçoit aussi que c'est dangereux et que d'abord la liberté est extrêmement dangereuse. C'est ça aussi que nous dit ça. Et c'est en ça qu'il est moderne.
D'un entretien d'Annie Lebrun avec Michel Camus. À quoi vous fait penser cet extrait, Stéphanie Genon ?
Mais j'étais entièrement d'accord, j'avais pas reconnu la voix d'Annie Lebrun. C'est dangereux la liberté. Sade ne nous dit que ça, et c'est ce que je dis aussi aux étudiants quand je fais cours sur
ça. C'est pour ça qu'il a été enfermé toute sa vie ?
Oui, parce que la liberté, c'est pas une liberté de salon en fait. La liberté telle qu'il l'entend et telle que son œuvre nous la présente, c'est. Ça consiste à accepter ce qu'on est, c'est ça la liberté, et vivre en paix avec soi-même et avec les autres, accepter donc aussi
le probablement dans
pire.
Le respect aussi des autres, parce que c'est ça qu'on reproche beaucoup à Sade, en tout cas c'est l'image qu'on a de Sade, de quelqu'un qui n'a pas respecté, au sens peut-être actuel d'ailleurs, dans lequel on entend ce terme, les femmes, les hommes avec qui il faisait des parties fines.
Oui, mais il les a respectés puisqu'il les a payés. Si vous voulez, c'est pas manquer de respect à une prostituée. Si vous la payez, elle sait pourquoi vous la payez. C'est pas pour jouer au Scrabble avec elle. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de manque de respect avec ses partenaires. Mais la liberté telle qu'il l'entend, et il n'est pas le seul à l'époque, hein, c'est accepter tout, y compris le pire. Et si vous dites aux hommes, vous êtes libres, mais ça veut dire que vous acceptez de voir que vous êtes capable du pire, que vous êtes traversés par des pulsions, tous. Vous, moi, homme, femme, riche, puissant, etc., ça coûte. Et donc, toute son œuvre nous dit à la fois cette liberté et nous dit la difficulté qu'ont les humains à l'accepter. Il dit dans Aline et Valcourt, vous dites aux hommes, vous, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de roi, c'est vous seul qui êtes responsable de vos actes et encore de la gestion des pulsions qui vous traversent. La plupart des hommes nous disent ça dans peur. Ils préfèrent finalement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, entre parenthèses, hein, c'est vertigineux la démocratie, la vraie. Hein, ça fait peur, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent qu'on pense pour eux. Sade nous dit, la liberté, la vraie, elle coûte. Mmh. Elle est effrayante. Donc elle a raison, Annie Lebrun. Et c'est, au contraire, c'est la vraie liberté dont il nous parle. C'est pas la liberté, vous voyez, de salon, encore une fois.
Alors, il faut parler du moment de liberté de Sade, ces quelques années, au moment de la Révolution française. Il y a d'ailleurs un passage assez incroyable que vous racontez dans votre biographie, qui est que le 4 juillet 1789, Sade est en train d'haranguer la foule des révolutionnaires à la Bastille. Donc, on décide, les autorités l'exfiltrent, ce qui fait que le 14 juillet, il ne sera plus à la Bastille quand les révolutionnaires libéreront les prisonniers.
Mais oui, rate ce rendez-vous avec l'histoire, c'est toute l'histoire de Sade. Il a 10 ans de liberté, en fait, enfin jusqu'en 1800, oui c'est ça, 1790-1800, on abolit les lettres de cachet, et donc Sade retrouve sa liberté. C'est une parenthèse dont il profite, même s'il a énormément de problèmes d'argent.
Il y a une déception quand même dans ce retour à la liberté, déçu des gens aussi.
Bien sûr.
Beaucoup.
Ah mais bien sûr, il rêve, il a souffert de solitude, mais quand on est resté trop longtemps loin des humains, on perd l'habitude de leur contact. Mais dans un second temps, Sade redevient très sociable, il rencontre une autre femme, Constance, une actrice avec qui il forme un couple heureux jusqu'à la fin de la vie de Sade. Et Sade se rattrape en termes de notoriété, puisqu'il a été quand même 17 ans à l'ombre. Mmh. Il cherche la lumière à présent, et donc il cherche absolument à faire du théâtre, à être connu comme acteur de théâtre. C'est sa passion de l'époque, et puis la Révolution arrive, et là, Sade se trouve aussi obligé de s'engager politiquement, et il le fait là encore avec beaucoup plus de nuances que ce qu'on pouvait attendre, et ce qu'on a dit aussi du personnage. Ainsi, il a raté la prise de la Bastille. C'était déjà, pour moi, un symbole de sa position très prudente. Être là, soutenir la Révolution au sens l'avènement de la liberté, mais se méfier de tous les excès de la liberté, de ce qu'on appelle à l'époque les bonnets rouges, hein, et qui, du coup, pour tous les gens qui pensent comme ça, qui sont modérés, vont vite faire risque, en tout cas, de tirer la Révolution vers la terreur.
Alors, il est quand même citoyen Sade de la section des Pics, donc il a des fonctions qui sont officielles durant la Révolution. Qu'est-ce qui fait que les choses vont se retourner à un moment donné pour lui et que les révolutionnaires, pendant la terreur, enfin il va échapper à la terreur plus ou moins, mais vont quand même finalement le renvoyer dans l'enfermement?
Alors, c'est pas les révolutionnaires qui l'envoient dans l'enfermement.
C'est Napoléon après, oui.
Oui, en fait, Sade se trouve sur la liste des condamnés à mort de la terreur, finalement un peu in extremis. Pourquoi ? Parce que Sade est modéré. C'est-à-dire qu'il défend...
Et parce qu'il est aristocrate quand même aussi,
ah,
non ?
Il est aristocrate, mais en même temps, il quitte sa particule assez rapidement, il s'appelle Louis Sade, c'est pas ça le problème. Mais il est trop modéré et il est trop pâté. En fait, autrement dit, il reste fidèle à des principes. Alors, en 92, c'est pas très grave d'être modéré et athée, mais la Révolution change très vite, hein, et à partir du moment où, sous la terreur, on n'a plus le droit d'être modéré. Et ça se méfie plus que tout des factions, etc. Et cette position de prudence, elle est insupportable. Et donc, il est jugé comme pas assez révolutionnaire, en fait, hein, pas assez proche de la terreur. C'est ça qui lui vaut d'être mis sur la liste des condamnés. Il échappe à l'échafaud de justesse.
Il échappe à l'échafaud et lui-même sera toujours totalement contre la guillotine, ce qui est pareil, un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'imagine être le rapport à la violence de Sade.
Mais encore une fois, enfin l'exemple type, c'est la belle-mère, par exemple, ce que je raconte, hein, la belle-mère qu'il a détestée toute sa vie, mais au moment où il se trouve dans la section des Pics, c'est dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, il se trouve que monsieur et madame de Montreuil sont sur la liste des suspects, donc là, il aurait suffi qu'il signe un papier pour qu'il soit guillotiné tranquillement. Et il le fait pas. Oui. Il sauve sa belle-mère. C'est là qu'on voit qu'on peut fantasmer la vie de quelqu'un, la mort de quelqu'un, pardon, mais quand il s'agit de le faire dans la réalité, c'est deux choses différentes. C'est la même chose pour Sade. C'est pas parce qu'il écrit la violence, hein, qu'il l'a faite. Et ce qu'il nous montre dans ses textes, c'est ce dont l'homme est capable. Là-dessus, moi, je pense comme lui qu'il n'y a aucune limite.
Et alors, il va ensuite être interné à Charenton, donc dans un asile. On ne le remet plus en prison, mais encore une fois, sans raison, hein, vous l'avez bien expliqué. Ça va être des années aussi contrastées, parce qu'il va y avoir des moments de bonheur quand même dans cet asile-là.
Ah ben, c'est ça que moi je trouve fascinant dans cette vie, c'est qu'elle n'aurait pu être que du malheur, mais Sade arrive à trouver la force morale de sublimer, comme on dit aujourd'hui, hein, de faire d'une vie carcérale un destin beaucoup plus intéressant. En fait, c'est Bonaparte qui l'arrête, qui le déclare fou. Pourquoi ? Parce que Sade est l'auteur de Justine, et c'est ce texte-là qui lui vaut en fait d'être emprisonné. Donc Sade est en gros en prison psychiatrique pour son œuvre, cette fois, à la fin de sa vie. Et ce qui va le sauver, ce qui va faire que ses 14 ans à Charenton, parce qu'il y meurt, hein, il y reste de 1800 à 1814.
Il meurt très âgé d'ailleurs, à 74 ans.
Oui. Costaud quand même le Sade, parce que quand on voit la vie, ah ouais, je me dis normalement il aurait dû mourir à 55 ans, mais non, tranquillement, c'est ouais, quelqu'un de résistant quand même, ça dit quelque chose. Ce qui le sauve, ce qui fait de ce séjour psychiatrique quelque chose d'assez heureux, c'est le directeur de l'hôpital psychiatrique, hein, le fameux Coulmier, qui lui est très progressiste. et qui comprend très bien, voilà, puis qui comprend très bien que Sade est juste un opposant politique. C'est pas du tout la même chose. Et Bonaparte fabrique des fous, hein, très facilement. Comme il exile Stahl, il enferme Sade. Finalement, c'est les mêmes, c'est à peu près pour les mêmes motifs, ou presque. Et donc, c'est le théâtre qui va sauver Sade, hein. Parce que Coulmier est un de ces psychiatres modernes, on les appelle pas comme ça, on les appelle les aliénistes, mais qui pensent que les fous ne sont pas différents de nous, mais qui sont juste traversés par des scénarios qui ont besoin de s'extérioriser, que le théâtre va donc pouvoir purger l'étrangeté qui les habite. Et donc, Sade ayant toujours aimé le théâtre, Coulmier va avoir l'idée de génie de lui confier la responsabilité de la troupe et des soirées. Et donc, Sade va non pas tant à écrire des pièces, parce qu'il va plutôt laisser les siennes dans ses papiers, mais va prendre des acteurs, faire des soirées, et finalement être plus heureux dans cette petite île isolée qu'à Charenton à l'époque, qu'il aurait été, ou qu'il a été même lorsqu'il a fait désespérément tenter de faire jouer ses pièces à Versailles pendant sa liberté. En fait, il arrive à être plus libre en prison qu'il l'aurait été dans sa vie civile.
Jusqu'à sa mort, le 2 décembre 1814, et son fils Donatien Claude Armand ne respectera pas ses dernières volontés inscrites dans son testament, puisqu'il voulait être enterré au sous-bois de sa terre de Malmaison, et qu'il sera finalement enterré de manière religieuse, qui va totalement à l'encontre de sa philosophie. Merci beaucoup Stéphanie Genon. Pour aller plus loin dans la connaissance de la vie de Sade, dont on n'a fait qu'effleurer les moments les plus importants, j'envoie nos auditeurs à votre biographie inédite. Elle vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millier, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Audrey Guélil. Demain, nous parlons de l'amour tel que Sade l'envisageait. Nous évoquerons également quelques-unes de ses œuvres. Ce sera avec Michel Delon. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie proposée comme chaque jour par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Est-ce qu'une vie est un livre réussi? Ou un livre une vie réussie? Je n'ai jamais opposé la vie et la mort, le bien et le mal, le triste et la joie. Je sais seulement qu'il importe de ne pas mépriser les formes apparemment amoindries, ratées, esquintées d'une écriture, car nous sommes le brouillon limpide de ces milliers de tentatives. Ça c'est Patrick Lopin. Il y a chez Patrick Lopin une écoute des paroles, des mots du Logos qui est passé par une autre usine. Il nous a confié « Je prends des notes toute l'année ». C'était dans le journal de bord de l'indicible, l'ex-dicible, ses journées partagées avec des enfants autistes. Ici, cet extrait était dans « L'homme imprononçable » qui se trouve à la rumeur libre. « Impasse de l'azur vient de paraître à la passe du vent », poésie. Souvent mes mots crayonnent un ciel à l'envers. Ce matin il fait beau. Les nuages obligent la lumière à passer à travers le filtre des pentes. Dessous on voit des champs. Quelques arbres, on voit des phrases filantes. Le temps sans héritage. C'est le seul bien. L'être et sa parole. Le poème et son penseur. C'est du vent. Il vaut mieux aimer les gens. Qu'est-ce qu'on deviendrait si nous n'étions gens du monde avenant et de bonne confrérie? Si nous ne disions bonjour chaque matin au visage qu'on rencontre, on a envie de poursuivre et de chanter jusqu'au bout de la voix. Sans fortune, on a envie de guérir commode. Le sublime réduit l'homme de manière incontestable. Je ne peux m'empêcher de penser à ça. Chez Lopin, on accroche des phrases comme ça qu'on note à notre tour. Patrick Lopin, l'homme imprononçable. Je pensais que dans la simple et furieuse durée de nos vies d'hommes qui respirent, qui écrivent, nous serions tentés soit de dresser un réquisitoire de la scène contemporaine, soit de la fuir, mais alors en prenant le risque de partir vers un pays qui n'a jamais existé nulle part. Cette question contient une pauvreté très grande. J'entends par pauvreté ce qui en chacun d'entre nous n'a pas renoncé à l'essentiel. Ah ah, là on a envie de dire trois petits points. J'entends par pauvreté ce qui en chacun de nous n'a pas renoncé à l'essentiel. Patrick Lopin, Impasse de l'Azur, deux échalotes tombées sur le trottoir, la dame aveugle avec son chien blanc, les messieurs simagrés du comptoir, J'en eus marre de la poésie cadenassée, corsetée, étranglée, sans oreilles, sans musique, bernée dans la cage du réfléchi, de l'air, du vent, ouvrez les fenêtres, aérez, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Patrick Lopin, l'homme imprononçable. C'est une banalité, mais quand en écrivant on s'approche un tant soit peu de ce qu'on ressent, on est bien. Il se lit autre chose entre les lignes. Il manquait le silence de cette passion à la signification. Communication par le diaphragme, moulin à prière, théâtre d'ombre chinoise qui déplie et laisse tourner les quelques images et significations essentielles sur lesquelles le vide et notre vie se sont édifiés, établis.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes de Patrick Lopin.